Nous, on a choisi la banque
qui finance les petits projets comme les grands.
Alors, on a une grande nouvelle à vous annoncer.
Ça va nous changer la vie.
Mais on y réfléchit depuis longtemps.
Alors, on a vu Claire.
Notre conseillère de la Banque Postale, elle nous a dit, pas de souci, on peut financer votre projet.
On va acheter une voiture.
À la Banque Postale, nous avons compris qu'il n'y a pas de petits ou de grands projets. Juste vos projets. Profitez de notre offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux ou projets valables jusqu'au 1er juin 2013. Renseignez-vous en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euro TTC la minute.
La Banque Postale.
Banque.
Et citoyenne.
Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit exclusif du prêteur.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Des calices, des crosses, des ostensoirs en or massif, toutes sortes de présents religieux offerts au Saint-Sépulcre de Jérusalem par les cours d'Europe sont exposés à partir d'aujourd'hui dans les salles des croisades du château de Versailles. Et en même temps, la maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry expose les grands tableaux du Saint-Sépulcre. De quoi, vous l'avez compris, donner à Franck Ferrand l'idée et l'envie de nous emmener à Jérusalem. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors d'abord un petit mot, un petit salut à tous nos auditeurs qui sont si fidèles et qui nous permettent d'avoir de vagues, de sondages en vagues, de très bons résultats. Merci de votre fidélité, merci d'être toujours là, présent au rendez-vous à 13h chaque jour sur Europe 1. Cette exposition intitulée « Trésor du Saint-Sépulcre » et qui se tient dans deux endroits en même temps, vous l'avez dit, met en lumière un des derniers grands trésors d'Occident, pourtant méconnu. Nous l'évoquerons tout à l'heure en compagnie de Béatrix Saul, qui dirige le musée de Versailles. Et avant cela, j'aimerais resituer le Saint-Sépulcre dans l'histoire et vous raconter la plus étonnante des sagas, celle des rois chrétiens de Jérusalem.
Et pour cela, vous avez invité Elisabeth Crouzet-Pavant, qui est auteure d'un ouvrage sur le mystère des rois de Jérusalem.
Et oui, son livre raconte un petit siècle de conquête, d'installation, de maintien du fameux royaume latin. Elle le fait à partir de toutes les chroniques. Nous allons y venir dans un instant. Ce royaume fondé à Jérusalem par Godefroy de Bouillon à l'issue de la première croisade. On était en 1099. Un royaume qui tombera sous les coups de Saladin en 1187. Avec cette question qui a fasciné nos ancêtres, comment un roi chrétien pouvait-il régner dans la ville du Christ roi ?
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Voilà une destination qui n'est jamais neutre. Jérusalem est une cité trois fois sainte pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. Et si en ce moment le débat reste aussi âpre au sujet de son statut, c'est précisément parce que l'enjeu est tout sauf anodin. Alors nous allons évoquer aujourd'hui l'un des moments les plus marquants, les plus symboliques de l'histoire hiérosolimitaine, comme on dit, c'est-à-dire de Jérusalem, c'est plus facile, c'est-à-dire son investissement et son maintien par les Francs. On est donc à l'extrême fin du 11e et pendant une grande partie du 12e siècle. Nous avons récemment, chère Julia, consacré une émission aux croisades. Hein, c'était, si ma mémoire est bonne, je ne vois jamais le temps passer. Mais enfin, il doit y avoir un mois et demi à peu près de ça. Ouais. Nous avons vu que le mot croisade était relativement tardif, hein, qu'il remonte seulement à la fin du 15e siècle. Nous avons évoqué tous les pèlerinages chrétiens aux lieux saints, des pèlerinages qui ont commencé dès le 4e siècle, quand Constantin a envoyé en Palestine sa mère, Hélène. Et depuis lors, ces pèlerinages, disons-le, n'ont jamais cessé. En 1065, sous la conduite de l'évêque de Bamberg, ce sont plus de 10 000 pèlerins allemands qui affluaient déjà à Jérusalem, par exemple. On est donc trois décennies avant la prise de Jérusalem. Alors, il faut bien revenir dans le contexte, puisqu'on va raconter l'histoire de ce royaume. Il y a eu la prise de Jérusalem aux Byzantins par les Arabes dès le 7e siècle. On peut dire qu'à ce moment-là, les pèlerinages chrétiens ont été un petit peu gênés, mais ils étaient tolérés moyennant une redevance. Or, les Byzantins, en profitant de la décadence des Abbassides, de cette dynastie de Bagdad, avaient fini par reprendre Jérusalem, qui donc, à ce moment-là, redevient chrétienne. Et puis, En 1071, patatras, Byzance s'incline à Manzikert, vous savez, devant la puissance toute neuve de ces nouveaux venus en provenance d'Asie centrale, les Turcs Seldjoukides, des Turcs qui vont donc convertir de nouveau toute cette région à l'islam sunnite. Sauf que ce qu'on a parfois tendance à oublier, c'est qu'en 1098, c'est-à-dire un an seulement avant l'arrivée des Francs, ce sont les Égyptiens, les Fatimides d'Égypte, qui eux sont des chiites, qui avait repris Jérusalem aux Turcs. Vous allez dire, mais c'est d'une complexité, tout ça, mais tout simplement, ce qu'il y a à retenir, c'est que cette ville trois fois sainte de Jérusalem passe évidemment de main en main des Byzantins aux Turcs et des Turcs aux Fatimides d'Égypte, avant donc qu'elle ne soit prise par les croisés francs, par les hommes de la chrétienté. Et le premier, celui qui va fonder la dynastie, c'est Godefroy de Bouillon. Alors on a appris son nom à l'école. Quand je dis on a appris son nom à l'école, ça dépend à quels auditeurs je m'adresse. Puisque on apprenait ça autrefois, et évidemment aujourd'hui on a tendance à l'apprendre moins souvent. Godefroy de Bouillon, duc de Basse-Lorraine, qui était très pieux. Vous savez, on disait que quand il entrait dans une église, on ne savait jamais quand il allait en sortir, ce qui avait tendance parfois à irriter un peu un certain nombre de ses barons. Alors après lui, c'était un homme extraordinaire. Il vivait, disait-on, à même le sol de sa tente, comme faisaient les Arabes de cette époque. Il était d'une grande simplicité, en même temps d'une force étonnante, puisque les chroniqueurs nous disent, est-ce vrai, qu'il était capable de trancher d'un coup de sabre le cou d'un chameau. Et puis ensuite, il y aura donc Baudouin Ier, personnage tout en ruse, un personnage politique, on va y venir. Baudouin II, qui lui était plus économe, qui fuyait les fêtes et les tournois. Il mourra sous l'habit de moine. Baudouin III, le Plantagenet d'Orient. Amaury Ier, un personnage intéressant, un roi tout à fait énergique, avec des vues plus larges. Et puis Baudouin IV, rongé par la lèpre, on va y venir. Et c'est lui, vous savez, qui sera le dernier. C'est pas tout à fait le dernier, parce qu'après lui, il y a un roi enfant, Baudouin V, le fils de Sibylle, qui était elle-même la fille du précédent roi, Amaury Ier. Et puis, on peut aussi dire que le mari de cette Sibylle a été le tout dernier roi, si l'on veut, Guy de Lusignan. On va venir à toute cette série de rois et à leur mystère dans un instant, en compagnie d'Elisabeth Crouzet-Pavant.
Sur Europe 1 de la BO du film de Ridley Scott sorti en 2005, Kingdom of Heaven. A tout de suite, nous partons avec Franck et ses invités en Terre Sainte.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités Franck sur Europe 1, Elisabeth Crouzet-Pavant, qui est professeure d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Paris-Sorbonne et auteure du livre Le mystère des rois de Jérusalem, 1099-1187 chez Albin Michel. Également avec nous Béatrix Saul, qui est conservateur général du patrimoine, directrice générale du musée des châteaux de Versailles et de Trianon.
Et oui, c'est toujours une joie de recevoir Béatrix Saul qui règne, si je puis dire, sur ces musées de Versailles et de Trianon. Vous nous proposez une exposition qui n'est pas très facile à présenter au public, disons-le. Cette histoire du trésor du Saint-Sépulcre, en plus dans une exposition qui est dans deux endroits, au château de Versailles même et à la maison de Chateaubriand, tout ça est un petit peu difficile à expliquer. Alors, ce que vous montrez, ce sont les cadeaux, les présents que les cours européennes ont fait à travers les siècles au Saint-Sépulcre, au lieu saint par excellence.
Oui, cette exposition, en fait, s'inscrit parfaitement dans la ligne de nos expositions où nous essayons, grâce à des collections venues d'ailleurs, de montrer un aspect disparu de Versailles. Quand on a fait les tables royales, c'est avec des services venant de toutes les cours qu'on a pu parler des manières de table à Versailles.
Même chose avec le mobilier d'argent, etc.
Voilà, aujourd'hui, la chapelle royale est complètement dépourvue d'ornements et de vêtements liturgiques. Et donc, c'est aussi un moyen de montrer ce que pouvait être la richesse de
ce mobilier liturgique
au XVIIe et XVIIIe siècle.
Alors, effectivement, l'essentiel de ce que vous présentez appartient au XVIIe ou XVIIIe siècle. Ce qu'il faut dire, Elisabeth Crouzet-Pavant, c'est qu'on a offert au Saint-Sépulcre des présents depuis toujours, hein, depuis le Haut Moyen-Âge en vérité.
Oui, depuis le Haut Moyen-Âge et certainement durant la période où Jérusalem est reprise par les Francs, où Jérusalem est chrétienne. On voit bien comment les pèlerinages se multiplient et comment certainement le Saint-Sépulcre à ce moment-là reçoit des présents de ces pèlerins qui affluent. La seule difficulté, c'est que évidemment la plupart de ces présents ont été perdus et donc tout ce trésor constitué au XIIe siècle, il en reste quasiment
vraiment très peu de choses,
quasiment rien. Oui.
Alors on reviendra évidemment largement dans la deuxième partie de cette émission sur ce trésor du Saint-Sépulcre et sur les lieux même, bien entendu, et sur le sort du Saint-Sépulcre à travers les siècles. Ce que j'aimerais que nous fassions maintenant, c'est nous attarder sur cette histoire tellement extraordinaire du royaume franc de Jérusalem, hein, ce qu'on appelait le royaume latin. Alors, on ne reviendra pas, si vous voulez, sur toute l'histoire de la première croisade, puisqu'on l'a raconté plusieurs fois à ce micro, et notamment il n'y a pas si longtemps. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois Jérusalem pris, on est donc en 1099, il y a trois grands hommes qui sont tout à fait en mesure de prendre le pouvoir sur place.
Oui, ce sont les chefs des grands contingents, les chefs de ce qu'on a appelé la croisade des princes. Et surtout, parmi ces chefs, il y en a deux principalement qui s'opposent en quelque sorte. Il y a le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, le plus fastueux, le plus riche de tous les barons, celui qu'on a vu à l'œuvre au long de la croisade, le plus magnifique donc. Et puis, Godefroy de Bouillon, alors que certains chroniqueurs nous présente comme peut-être plus pieux. Et entre ces deux hommes, le sort de ce qui va être Jérusalem est en quelque sorte le sort
est partagé
entre. En fait, le troisième homme, si j'ose dire, c'est le patriarche de Jérusalem, parce que la vraie querelle est moins entre les barons qu'entre les barons et les clercs,
et voilà.
Les clercs qui voudraient en fait prendre, affermir un pouvoir d'ordre spirituel sur Jérusalem.
Ce que vous montrez dans ce livre, à travers, encore une fois, les chroniques, et on va venir dans un instant à ces chroniqueurs à partir desquels vous avez pu établir tout cela, ce qui est très spécifique dans cette ville de Jérusalem, c'est que, évidemment, elle est, qu'on le veuille ou non, la ville du Saint-Sépulcre, elle est la ville du Christ, et donc on se demande si le pouvoir qui va s'y établir sera un pouvoir temporel ou spirituel.
Oui, et le mystère précisément des rois de Jérusalem, parce que pour une part très importante, sans nul doute, de ceux qu'on appelle les pèlerins, c'est-à-dire les croisés, ceux qui sont arrivés à Jérusalem, ceux qui ont pris Jérusalem, la question se pose vraiment de savoir si un homme, c'est-à-dire un homme pécheur, un homme de chair, un homme faillible, peut être roi là où le Christ a été abaissé, a été humilié, a souffert la passion.
Est-ce qu'il en a en quelque sorte le droit moral ? Eh bien, c'est à cette question que les différents rois de Jérusalem vont avoir à répondre. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Avec une émission consacrée aujourd'hui sur Europe 1 au mystère des rois de Jérusalem, Franck.
Alors ces rois de Jérusalem, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas véritablement réussi à établir une dynastie. En tout cas, ils n'avaient pas de descendants les uns et les autres. Que se passe-t-il ? Ils sont presque tous stériles l'un après l'autre. C'est une sorte de malédiction, Élisabeth Crouzet-Pavant.
Les chroniqueurs ne le disent pas, mais il le pense sans doute, c'est en quelque sorte implicite dans ses chroniques, puisqu'en effet, ne s'accomplit pas en Terre Sainte le miracle capétien, succession de rois, ces pères qui transmettent la couronne aux fils et qui ont toujours suffisamment de fils quand il y en a un qui vient à manquer pour leur passer la couronne.
Ce qu'on avait l'habitude de voir en Europe, ça c'était bon.
Oui, surtout donc chez les capétiens. Là, au contraire, Godefroy, qui n'est pas roi, va avoir comme successeur son frère, Baudouin Ier, qui lui est roi, qui est couronné.
Fastueux roi. Hein.
Fastueux roi, tel qu'il est justement représenté là plutôt par les chroniqueurs orientaux, avec la barbe, le burnou tissé d'or, avec un faste qu'il a repris au souverain d'Orient. Oui. Alors après Baudouin Ier, le cousin, qui aussi a participé à la croisade, Baudouin du Bourg. Bon, et ensuite, pas d'héritier. Donc, en fait, la couronne va passer à une fille que l'on marie, hein, que l'on fait, on fait venir hein, un puissant baron d'Occident. Donc, il y a toute une difficulté dans la succession tout au long de l'histoire des rois de Jérusalem.
Alors ces rois de Jérusalem, vous nous le dites, ils vont en tout cas pour certains se parer de tout le prestige des souverains d'Orient et en même temps ils restent extrêmement fidèles au modèle occidental et spécifiquement à ce modèle capétien que vous avez cité.
Oui, ils importent très largement les institutions, la langue, les coutumes. C'est une sorte de monarchie occidentale transplantée en Orient. Mais dans l'histoire telle qu'elle nous est racontée, il faut bien voir aussi que l'image qui est mobilisée, c'est l'image biblique, c'est l'image vétérotestamentaire. Ces rois nous sont décrits en même temps comme succédant au roi d'Israël. Donc il y a l'image, évidemment, de David qui est convoquée.
Alors, il faut peut-être, pour qu'on visualise les choses, donner des éléments territoriaux. À quoi correspond, du point de vue géographique, cette souveraineté des rois latins, des rois de Jérusalem ?
Alors, au départ, presque rien. Et là aussi, est le mystère et le miracle pour nos chroniqueurs. Nous, le peuple de rien, dit l'un de ces chroniqueurs, Fouché de Chartres, le peuple de rien, c'est au départ une poignée d'hommes entourés d'ennemis. Et progressivement, donc, le royaume de Jérusalem, un peu sous Godefroy, mais principalement sous son frère Baudouin Ier, s'étend. Et le royaume de Jérusalem, au moment de sa plus grande expansion territoriale, va du Liban actuel, qui correspond au comté de Tripoli, oui, jusqu'à pratiquement un peu au nord du golfe d'Aqaba. Et puis avec
donc ça descend très bas,
oui,
quand même.
Oui,
hein, c'est vaste.
C'est vaste, d'autant qu'en plus il y a toute une partie au-delà du Jourdain qui a été également conquise. Donc le royaume de Jérusalem, qui est la plus vaste entité, et puis d'autres entités qui ont été aussi conquises, mais qui sont le comté d'Édesse, le comté de Tripoli, etc. Je n'énumère pas.
C'est très important, hein, toutes ces marches du royaume, en quelque sorte, parce que ce seront autant de points faibles lorsque l'on va voir de nouveau les musulmans reprendre...
Au moment de la reconquête, c'est bien entendu, ces marches qui sont les première à céder, à être vraiment emportée par la vague de la reconquête. Et même si on voit les rois de Jérusalem se déployer, enfin vraiment ce sont des rois à cheval, des rois de guerre, non seulement à l'intérieur de leur royaume, mais aussi hors de leur royaume pour aller porter secours aux autres principautés latines, en dépit des efforts de ces rois de Jérusalem. Peu à peu, les marches sont emportées et le royaume lui-même s'effrite et grignoté, et la fin de l'histoire, c'est une sorte de parallèle symbolique tout à fait étonnant entre ce royaume qui se rétracte et le corps du roi, le roi lépreux qui lui-même...
C'est comme si c'était vraiment l'incarnation même.
Il est l'incarnation même du royaume. Et les chroniqueurs dépeignent sa passion comme justement l'histoire du royaume qui souffre. Il souffre dans son corps, fin du royaume.
Le cinéma en a tiré de très belles images. On a tout à l'heure diffusé un extrait de la bande originale de Kingdom of Heaven et on voyait justement ce roi complètement loqueteux, dirais-je, hein, lépreux évidemment, ce roi ladre qui incarnait ce royaume lui-même en décomposition. Alors avant la décomposition, il y a quand même eu de belles, de riches, de grandes heures. Nous y venons ensemble dans un instant et puis je ferai mon récit sur la chute de ce royaume un petit peu plus tard, j'ai envie de dire une partie plus loin.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous vous emmenons aujourd'hui en Terre Sainte sur les traces des rois francs de Jérusalem.
Alors ces rois, évidemment, ils vont avoir pour mission de latiniser tout ce pays. On va voir fleurir les églises notamment. C'est une christianisation galopante à laquelle on assiste pendant notamment les premières décennies du royaume, au tout début du XIIe siècle, du XIIe siècle.
Ce sont vraiment des dizaines et des dizaines d'églises qui sont construites, alors dont il ne reste quasiment rien. pour la plupart d'entre elles, parce que évidemment la reconquête de Saladin a fait disparaître toutes ces pierres. Mais on voit bien combien il y a une entreprise vraiment de sacralisation et de resacralisation de ce territoire, parce que l'entreprise de construction est vraiment considérable dans les villes et hors des villes.
Il ne faut pas oublier la dimension commerciale également, parce qu'évidemment pour les Vénitiens et pour d'autres, pour tous les marchands d'Europe, c'est une bénédiction que cette implantation de chrétiens d'Occident sur ce qu'on appelait les échelles du Levant.
Oui, les Italiens trouvent là, en quelque sorte, la récompense de leur effort de guerre et du fait, surtout pour les Génois qui sont les premiers à avoir des avantages commerciaux, pour les Génois, la récompense du fait qu'ils ont aidé à la prise de Jérusalem. Ils ont vraiment participé à la première croisade. Et ensuite, les Vénitiens arrivent à leur tour, les Pisans également, mais ce sont surtout les Génois, les Vénitiens, qui vont recevoir des concessions, c'est-à-dire des quartiers à l'intérieur des villes les plus importantes et surtout à ce qu'on appelle alors Acre, c'est-à-dire Saint-Jean d'Acre, qui est le meilleur port, le meilleur mouillage, et où donc ces Italiens s'installent.
Une véritable porte pour les marchandises, évidemment.
Pour faire du commerce, c'est ça, parce que ce sont les voies d'arrivée des routes terrestres, des routes caravanières.
Et ça, évidemment, ça va modifier les habitudes dans tout l'Occident. Alors, on ne va pas revenir aujourd'hui sur les conséquences des croisades en général, et notamment de l'implantation à Jérusalem de ce royaume sur les habitudes, sur la consommation, sur les produits consommés. On découvre toutes sortes de nouveaux fruits, on découvre des parfums, on découvre des types d'étoffes, enfin, etc. Ça, c'est tout un aspect civilisationnel qui est évidemment très important. Et en même temps, ce qui est assez surprenant, c'est que ce royaume, qui certes n'a même pas duré un siècle, n'a pas laissé dans la mémoire des Européens un très grand souvenir. Finalement, ce qu'on en a retenu le plus, ce sont les ordres militaires, les ordres de chevalerie de ces moines soldats, à la fois l'ordre des hospitaliers et puis bien sûr, tellement célèbre, l'ordre des Templiers.
Oui, parce que ces ordres, eux, ont survécu et ont longuement combattu pour la chrétienté, enfin surtout pour les hospitaliers. Et alors que le royaume de Jérusalem et les États latins avaient sombré. Alors il est certain que l'histoire du royaume latin se confond en partie avec l'histoire de la montée en puissance de ces deux ordres militaires qui, surtout dans la deuxième moitié du XIIe siècle, prennent dans la défense du royaume une importance considérable, puisque ce sont eux qui tiennent progressivement toutes les forteresses, toute la ligne de fortification des États latins.
Et à partir de là, on peut même dire qu'ils sont une sorte d'État dans l'État. C'est à se demander si c'est pas eux qui dirigent d'ailleurs en vérité.
D'ailleurs, on voit bien dans les sources, en particulier donc dans ces chroniques, combien au début de l'histoire le récit s'organise autour de la personne du roi et comment progressivement l'histoire devient chorale. Il y a une multitude d'acteurs qui apparaissent autour du roi et parmi ces acteurs, les grands maîtres, soit du temple, soit de l'hôpital, prennent une importance considérable, avec d'ailleurs une image très fortement négative, parce que nos clercs sont des séculiers et n'aiment pas du tout, évidemment, ces grands maîtres qui sont les maîtres d'ordre, qui bénéficient d'exemples considérable, etc. Donc, il y a là une hostilité farouche et l'image noire d'un certain nombre de ces grands maîtres est forgée par nos chroniqueurs.
Et puis, évidemment, les 8 chroniqueurs sur lesquels vous vous appuyez vous-même sont quasiment l'unique source dont nous disposions du fait même de ce qui est advenu de ce royaume. C'est-à-dire que les archives au sens brut sont extrêmement faibles pour
faibles. Oui, alors 8 chroniqueurs pour les premières années et ensuite il y en a d'autres. Oui. Et puis à ces chroniqueurs latins, il faut aussi ajouter les chroniques évidemment les chroniques arabes, et puis les sources qui émanent des chrétiens d'Orient qui sont aussi très intéressantes et qui viennent enrichir et nuancer notre histoire.
Alors, nous avons évidemment une imagerie des croisades qui s'est peu à peu constituée dans l'historiographie française et qui a atteint évidemment une sorte de... qui a atteint le rang du mythe sous la monarchie de Juillet. Et lorsque Louis-Philippe, en 1837, inaugure ces fameuses galeries historiques, il veut faire du château de Versailles une sorte de grand musée de toute l'histoire de France, sans préférence particulière, dédié, comme il l'a dit, à toutes les gloires de la France. Il va réaliser un certain nombre de salles qui sont sont la mémoire des grandes familles d'Ancien Régime, et ce sont les salles des croisades, Béatrix Saul.
Voilà, cinq salles des croisades dans un style néo-gothique, un ensemble néo-gothique absolument
très réussi,
exceptionnel,
bien,
très oui. réussi, très beau, et qui raconte toute l'histoire des croisades, et qui va assez loin parce que il retrace aussi l'histoire des ordres de chevalerie jusqu'au XVIe siècle.
Et on dit que les familles à l'époque, certaines d'entre elles ont payé pour voir leurs armes figurer sur l'ensemble des blasons présentés au plafond de ces fameuses salles.
Alors j'avais eu l'occasion de poser la question justement à des spécialistes de cette période pour dire quel est le sérieux de ces représentations.
Oui, voilà.
Et ils ont pu voir combien les peintres de Louis-Philippe avaient des scrupules historiques.
Ah, tout de même, oui.
Et que on était vrai dans les habillements, on était vrai dans les paysages, et que c'était pas du tout des documents sans intérêt.
Et il y a au centre de la principale de ces salles une magnifique porte qui, elle, vient directement de là-bas, si je puis
oui,
dire.
Oui, qui vient de là-bas, qui vient de Rhodes, puisqu'elle a été offerte par le sultan Mahmoud à Louis-Philippe en 1836. C'était le prince de Joinville qui avait, lors d'une escale, il était officier de marine, lors d'une escale, avait repéré cette porte déposée, très belle porte. Et donc, elle a inspiré ensuite tout le style néo-gothique de ces salles.
Alors, ce royaume franc de Jérusalem, comment a-t-il fini après moins d'un siècle d'existence? C'est ce que je vous propose de découvrir dans un instant.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui nous relate maintenant sur Europe 1 la chute du royaume franc de Jérusalem.
Oui, vous avez bien compris que c'est en 1099 que tout ça s'est mis en place. Et donc, sept décennies plus tard, avec ces successions rendues difficiles par l'absence d'héritiers directs de la plupart des souverains, en 1170, on voit un petit prince, le petit prince Baudouin, qui est en train de jouer avec ses camarades entre deux cours que lui dispense son précepteur, Guillaume de Tyr, l'archevêque. Guillaume de Tyr, grand chroniqueur, très utile évidemment pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est pour les historiens contemporains évidemment. Et ce jeune prince Baudouin, qui est le fils du roi régnant d'Amaury Ier de Jérusalem, est en train de jouer et soudain un de ses camarades le blesse. Vous voyez comme ça peut arriver, il l'égratigne assez sérieusement dans la cour. Et à la stupéfaction de Guillaume de Tyr, on voit l'enfant qui continue de jouer. Il n'a pas l'air du tout de se rendre compte qu'il est blessé. Alors on le fait venir, il a l'air en pleine forme cet enfant. Sauf que, évidemment, on va procéder à des examens et qu'on se rend compte assez vite qu'il est malade. Et quand je dis qu'il est malade, c'est bien plus grave que ça. Les médecins, les mires, vont découvrir qu'il a la lèpre. Quand je parlais tout à l'heure de malédiction, on a l'impression que tout va toujours de mal en pis dans les successions de ces rois. Quatre années plus tard, le roi Amaury vient à mourir, il meurt à Jérusalem, il meurt du typhus, et c'est donc son fils, hein, c'est ce jeune roi lépreux qui va assumer la suite. C'est terrible, hein, parce que les 11 années du règne de Baudouin seront 11 années de lutte contre la maladie, et néanmoins le courage de ce dernier roi est tout à fait extraordinaire, puisqu'on le verra mourir l'épée à la main, et vous pensez tout l'usage qu'en feront les chroniqueurs, évidemment. En face de ce pauvre roi lépreux, en face de Baudouin V, se trouve le sultan, c'est lui le grand ennemi, hein, sultan d'Égypte et de Syrie, d'origine kurde, c'est Saladin, personnage auquel nous avons là encore consacré une émission il y a pas mal de temps, je le reconnais, personnage tout à fait extraordinaire, grand souverain. Évidemment, lorsque le roi lépreux apprend que Saladin assiège Alep, il n'a que 15 ans. Aussitôt, Baudouin fonce vers la vallée de la célèbre plaine de la Bekaa, hein, qui est devenue pour d'autres raisons célèbre dans notre histoire contemporaine. Il va l'emporter du reste et ramener de Tyr tout un butin extrêmement important. Mais en 1177, cette fois Baudouin a 16 ans, avec 400 chevaliers, il va se laisser assiéger à Ascalon par Saladin, qui lui est à la tête d'une armée immense, hein, 26 000 hommes. Le sultan se contente de laisser tout un détachement pour faire le siège d'Ascalon, et puis lui, il se met en marche vers la Judée et il a l'intention de s'emparer de Jérusalem, qui à ce moment-là n'a plus de défenseurs. Le 25 novembre 1177, Baudouin arrive à sortir d'Ascalon. Il faudrait reprendre les chroniques, hein, pour le coup, car c'est tout à fait spectaculaire et héroïque. Il bouscule les assiégeants, il va suivre la côte pour revenir vers Ramallah, et son intention, c'est de couper la route de l'armée de
de Saladin. Les 400 compagnons de Baudouin croient le roi frappé de démence parce qu'il dit « Je vais m'élancer vers l'ennemi ». Et quel ennemi ? Voilà ce que nous rapporte Michel de Syrien. Alors là, on est dans une autre chronique, hein, la chronique d'en face, si je puis dire. « Dieu, qui fait paraître sa force dans les faibles, inspira le roi infirme. Il descendit de sa monture, se prosterna face contre terre devant la croix et pria avec larmes. À cette vue, le cœur de tous les soldats fut ému. Ils jurèrent sur la croix de ne pas reculer et de regarder comme traître quiconque tournerait bride. Ils remontèrent à cheval et chargèrent. 400 cavaliers contre 20 000 sarrasins, mais les Francs ont avec eux la vraie croix et celle-ci paraît si grande aux combattants qu'elle semblait, nous dit le chroniqueur, toucher le ciel. Et je poursuis, le passage était encombré par les bagages de l'armée. Soudain surgirent les escadrons des Francs, agiles comme des loups, aboyant comme des chiens. Ils chargèrent en masse, ardents comme la flamme. Les musulmans lâchèrent pied.
Un nouvel extrait sur Europe 1 de la BO du film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven.
Saladin prendra sa revanche le 10 juin 1179, pas très loin de Baniyas, et en 1180, une trêve intervient entre le sultan d'Égypte et de Syrie et les Francs. Le roi lépreux en profite pour marier sa sœur. Ça va être très important parce que Sibylle va épouser un baron piémontais, Guillaume Longuepée, hein, qui est le fils du marquis de Montferrat. Et c'est ce qui va lui permettre de donner naissance au futur Baudouin V, qui sera alors lui l'ultime roi de Jérusalem, l'ultime roi franc, évidemment. Et puis, il se trouve que Longuepée meurt assez vite et Sibylle va se remarier. Alors elle se marie à un poids de vin, Guy de Lusignan, qui est très beau, qui est un peu le chevalier idéal, mais qui, nous dit l'époque, est plein de simplesse. Autrement dit, il n'était pas très malin, vous savez, il devait être un peu niais, le fameux Guy de Lusignan. En tout cas, c'est la vie d'un certain nombre de chroniqueurs. Alors, malheureusement, on peut dire que la trêve ne va pas durer très longtemps parce que Renaud de Châtillon, l'ancien prince d'Antioche, qui dans toute cette affaire fait toujours un peu figure de méchant, si vous voulez, va rompre la trêve. Il attaque une caravane de pèlerins qui se rendait paisiblement de Damas à la Mecque. Et ça, évidemment, ça a pour effet de relancer la guerre. Baudouin a beau exiger que Renaud fasse des excuses, hein, qu'il fasse machine arrière. En vérité, la trêve est rompue. Alors, eh bien, le roi lépreux va de nouveau endosser son armure, sauf que maintenant, il est de plus en plus mal. Hein. Il perd des doigts, vous voyez, évidemment, il a toutes sortes de plaies sur tout le corps. Et on dit que lorsqu'il arrivait, évidemment, sur le champ de bataille, il épouvantait l'ennemi. Sa lèpre, nous dit un chroniqueur, l'affaiblissait au point qu'il ne pouvait plus se servir de ses mains ni de ses pieds. Il était tout pourri et allait perdre même la vie. Et on le verra au fil des différents combats qui vont avoir lieu maintenant et dans le détail desquels je ne vais pas entrer, on le verra se faire porter en litière, puis même un jour en civière jusqu'au champ de bataille. Peu à peu, on voit les Francs perdre du terrain et on les voit, ce sera évidemment la célèbre bataille de la colline de Hattin hein, qui sera finalement la victoire de Saladin. Il y a eu entre-temps une autre trêve qui elle aussi a été rompue et puis finalement Saladin s'emparera de Jérusalem. Et ça on peut dire évidemment, Elisabeth Crouzet-Pavant, que c'est la fin du royaume évidemment.
La fin du royaume de Jérusalem à Jérusalem, puisque le royaume va ensuite, grâce à la troisième croisade, se reconstituer autour d'Acre, sur une frange littorale. Mais les rois de Jérusalem sont désormais rois ailleurs qu'à Jérusalem. Et pour moi, c'est donc au moment de la reconquête de Jérusalem que l'histoire s'arrête, que le mystère des rois de Jérusalem s'arrête, puisque désormais, la ville qui faisait problème. Jérusalem, la ville où le Christ avait été roi, a été reprise par Saladin.
Et puis on va voir, bien entendu, se rapatrier en Europe eh bien, tous ceux qui avaient été les acteurs de cette extraordinaire aventure, à commencer par les célèbres Templiers, bien entendu. Dans un instant, nous en venons au Saint-Sépulcre. Qu'est devenu le Saint-Sépulcre après 1187? Et nous parlerons de cet extraordinaire trésor, l'un des derniers trésors d'Occident.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec une émission consacrée cet après-midi sur Europe 1 au mystère des rois de Jérusalem.
Alors nous avons vu ce royaume s'effriter complètement à l'image de son avant-dernier roi, hein, ce pauvre Baudouin IV qui était complètement lépreux. Nous avons vu Saladin reprendre Jérusalem, c'est la fin du royaume franc. Ce site extraordinaire et qui justifie toute cette aventure, c'est-à-dire le tombeau même du Christ, c'est-à-dire le Saint-Sépulcre, nous n'en avons pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission, Elisabeth Crouzet-Pavant. Alors, il faut dire qu'il a bénéficié, évidemment, de tous les soins des différents rois de Jérusalem. Il était au cœur même de leur pouvoir et de leur souveraineté.
Oui, bien sûr, puisque les chroniques racontent comment Godefroy, à peine rentré dans Jérusalem, irait se recueillir au Saint-Sépulcre. Alors, bien sûr, le Saint-Sépulcre, pour eux, c'est l'ombilique dans la ville ombilique. Hein.
C'est le nombril, en quelque sorte.
Nos rois de Jérusalem sont tous enterrés au Saint-Sépulcre. Ils vont rejoindre le Créateur. Leur tombeau est auprès du tombeau vide du Christ. Et donc, assez rapidement, bien sûr, on se lance dans des travaux considérables qui vont occuper pratiquement toute la première, au-delà même de la première moitié du XIIe siècle. Alors, il faut dire que l'ensemble monumental était en très mauvais état, hein, puisque avait subi à la fois des incendies, des destructions successives. Alors, il y avait eu un peu des reconstructions.
Ce Saint-Sépulcre, il a une forme très reconnaissable. Hein. On va en trouver donc à partir de là la trace dans l'inspiration d'un certain nombre d'architectures religieuses à travers toute l'Europe et jusque très tard.
Oui, avant même d'ailleurs. D'ailleurs, la première croisade, donc dès le moment des grands pèlerinages, on commence à importer en Europe des Saint-Sépulcres. C'est-à-dire que c'est assez intéressant. À la fois, les chrétiens partent pour ce pèlerinage vers le lieu plus que tous les autres saints, mais en même temps, pour tous ceux qui ne peuvent pas partir, le Saint-Sépulcre est reproduit à petite échelle.
On en a d'ailleurs dans votre exposition au château de Versailles, Béatrix Saul, on a une maquette. Alors, elle est en nacre.
Une maquette du XVIIe siècle. Il y a des maquettes, une vingtaine de maquettes qui a été repérée dans le monde, existant encore aujourd'hui, de ces maquettes qui ont été faites dans les environs de Bethléem, sans doute. Et Louis XIV en avait une, d'ailleurs, dans ses collections.
Quel était, au XVIe, au XVIIe siècle, et puis même encore dans une époque plus récente, quelle était l'importance de ces lieux saints et du Saint-Sépulcre dans la foi des souverains d'Europe et de leur cour? Est-ce que c'était une véritable référence? Est-ce que Louis XIV songeait aux lieux saints, si je puis dire?
À Louis XIV, oui, il songeait aux lieux saints. Il y a même dans l'exposition une gravure que nous ne connaissions pas et enrichissante pour l'iconographie. Louis XIV, où on voit Louis XIV protecteur des lieux saints, qui illustre une lettre patente, justement, où on voyait Louis XIV protégeant. Alors, les rois de France étaient traditionnellement, depuis Saint-Louis, le patron de la maison de France, très attiré et se voulant les protecteurs des lieux saints. Ça, c'était une constante.
Avec toute une titulature de roi de Jérusalem, d'ailleurs totalement abstraite, puisque ça ne correspondait à rien sur le terrain, mais enfin qui continue à la cour de France. Hein.
Oui. Et puis au XVIIIe siècle, on présente aussi à l'exposition un registre où l'on voit tous les membres de la famille royale, du régent, parce que le registre commence en 1715, du régent jusqu'à Marie-Antoinette, Louis XVI et ses enfants, faire partie de l'archiconfrérie des chevaliers, palmiers et voyageurs du Saint-Sépulcre. Cela veut dire en clair qu'il donnait de l'argent pour soutenir la custodie de Terre Sainte.
Alors, ce trésor que vous exposez, enfin vous en exposez un certain nombre des chefs-d'œuvre, montre à quel point les cours royales de toute l'Europe rivalisaient de faste. C'était à qui ferait le plus beau présent, en vérité. Ce qui nous permet d'avoir de véritables chefs-d'œuvre d'orfèvrerie. Hein. On parlait de mobilier religieux tout à l'heure, de mobilier liturgique. Tout ça est d'un faste absolument effréné.
Alors, d'un faste effréné, Et cela donne des objets que nous connaissons pas, donc nous connaissions l'existence par des archives,
mais, oui.
mais nous n'avions plus du tout d'exemple de, d'objets en or massif, de tableaux en argent.
Oui.
Hein, on en a un au Victoria and Albert Museum, on le met toujours en exemple, mais il est tout petit, tandis que là, on en a un qui est gigantesque, avec un effet de relief énorme. Un devant d'hôtel qui fait 2,50 m et qui est profond de 60 cm. Enfin, c'est absolument ahurissant. Et les spécialistes d'orfèvrerie disent, mais comment se fait-il que tout ceci nous ait échappé, qu'on ne connaisse pas ça?
Mm-hmm.
Parce que le trésor n'était pas à proprement parler caché. On voit à la fin du XVIIIe siècle, Volney, un voyageur, en parler. Pierre Loti, dans des souvenirs de Jérusalem à la fin du XIXe siècle, fait état dans la sacristie de Saint-Sauveur de choses qu'il a vues en or, offertes par le roi de Naples, etc. Donc il n'y a pas véritablement
de disparition.
Une occultation.
C'est ça. Il vient d'oubli.
Simplement, ça n'était pas connu, ça n'était pas levé. Alors, bien sûr, ce qui reste est formidable. Mais il faut savoir que ce n'est qu'une petite partie de ce qu'ils ont pu avoir. Parce que il y avait, c'était évoqué tout à l'heure, les pèlerinages étaient dangereux et apporter des choses précieuses était encore plus dangereuse. Alors il y a eu un roi de Naples au XVIIIe siècle qui a été suffisamment astucieux pour traiter un accord commercial avec le sultan d'Istanbul pour faire en sorte que il donnait des cadeaux, il y avait un accord commercial et puis il avait l'assurance de la protection du voyage de ses œuvres formidables. Mais sinon, la chapelle offerte par Louis XIII, on sait qu'elle est partie complète et il en reste de beaux, de belles, des flambeaux, des lampes, des bassins qui sont absolument uniques et formidables, mais ce n'est qu'une partie de ce qui était parti.
Quand tout ça n'est pas à Versailles, ça se trouve où concrètement ?
Alors, un peu disséminé.
Et c'est ça, il y en a partout en fait.
Dans,
hein,
oui, entre Bethléem, Nazareth, Ein Carême, Jérusalem, dans des tiroirs de sacristie, dans des petits placards qui sont dans un petit escalier.
Et il a fallu beaucoup de choses que... là-bas, tout ça. Il a
oui,
fait
oui, 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 oui. Il y a eu tout un travail qui a été fait très en amont par Jacques-Charles Gaffiot et Bernard Degout et toute une équipe de spécialistes, parce que tout ce trésor n'avait jamais été étudié. Et l'exposition a été l'occasion des études par les spécialistes et aussi de restaurations très importantes. Parce que comme tous ces objets, tout de même, étaient utilisés, bah, ils étaient un peu cabossés.
Oui,
les brocarts, parce que les brocarts, les broderies, parce que c'est inimaginable ce qu'il y a en orfèvrerie, mais également en étoffe.
C'est
tissu.
Eh oui, et puis on peut aller voir aussi les tableaux donc à la maison de
Châteaubriant.
Merci beaucoup Béatrix Sol, ce trésor du Saint-Sépulcre, présent des cours d'Europe, des cours européennes à Jérusalem. C'est au château de Versailles et c'est jusqu'au 14 juillet prochain. Et puis d'Elisabeth Crouzet-Pavant, vous avez bien compris que l'histoire des rois de Jérusalem figure dans cet ouvrage d'Albin Michel, Le mystère des rois de Jérusalem de 1099 à 1187. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de finalement cette partie de l'histoire d'Occident qu'on oublie très volontiers parce que c'était un petit peu loin là-bas et que ça n'a finalement pas duré très longtemps.